Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 23 mars 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Le ministre chinois des Affaires étrangères est attendu en Iran pour des entretiens avec les autorités iraniennes. Des entretiens des kits seront concentrés sur les relations stratégiques et les développements régionaux et mondiaux. La rencontre des tribus des Syriennes à Deir-ez-Zor, elles insistent sur la lutte contre le terrorisme et le soutien de pouvoir syrien. La Chine et l'Algérie ont établi un modèle de coopération internationale. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, doit effectuer une visite officielle de 2 jours à Téhéran pour s'entretenir avec de hauts responsables iraniens sur les relations stratégiques et les principaux développements régionaux et internationaux, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Saïd Khatibzadeh a déclaré que le chef de la diplomatie chinoise arriverait vendredi à Téhéran et de sa soirée pour des entretiens officiels avec le président iranien Hassan Rouhani et le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a ajouté que les deux parties discuteront des moyens permettant de promouvoir la coopération stratégique entre Téhéran et Pékin et elles s'entretiendront également des derniers développements régionaux et internationaux. La Chine entretient des relations amicales avec l'Iran et reste partie à l'accord nucléaire officiellement connu sous le nom du plan global d'action conjoint dont les États-Unis se sont retirés en 2018 et ont par la suite établi des sanctions les plus sévères contre l'Iran. La Chine et l'Iran s'emploient également à finaliser le partenariat stratégique global sino-iranien de 25 ans qui a été annoncé dans une déclaration conjointe lors d'une visite du président chinois Xi Jinping à Téhéran en 2016. La feuille de route de la coopération se compose de 20 articles couvrant les relations Téhéran-Pékin dans les domaines tels que la coopération politique et exécutive, les relations
humaine et culturelle, la collaboration judiciaire, de sécurité et de défense, ainsi que les domaines régionaux et internationaux, selon le communiqué publié à l'époque. À la tête d'une délégation de haut rang, le ministre iranien des Affaires étrangères s'était rendu à Pékin en octobre et avait eu des entretiens fructueux avec son homologue chinois sur le partenariat stratégique des deux pays. Zarif avait déclaré à l'époque que l'Iran et la Chine s'opposaient aux politiques unilatérales des États-Unis sur les développements régionaux internationaux et à leur tentative de créer un monde unipolaire. Les tribus syriennes à Deresor ont réitéré leur appartenance à la patrie et leur attachement à son unité, insistant sur leur soutien à l'armée syrienne dans la lutte antiterroriste et sur le rejet de toute forme d'occupation. Dans le communiqué final, les participants ont assuré que les tribus syriennes s'attachent à l'unité de la Syrie et se tiennent aux côtés de l'armée arabe syrienne sous la direction du président Bachar al-Assad, insistant sur leur rejet de la présence des deux occupants américains et turcs et sur leur soutien aux des tribus qui sont sous l'occupation. Les participants ont souligné l'importance de la résistance populaire, notamment la résistance armée pour libérer les territoires de Syriens occupés et de la conjugaison des efforts de toutes les tribus dans le but d'expulser les occupants de la Syrie, condamnant les agressions répétées menées par de l'ennemi sioniste, les soi-disant forces de coalition contre les territoires syriens. Les participants à cette réunion ont adressé un télégramme au président Assad, dans lequel ils ont affirmé que les habitants de Deresor resteront des soldats fidèles dans tout ce qui sert la patrie de Syrie, derrière leur direction brave, qui est la seule apte à stabiliser la Syrie, ont-ils précisé. Annonçant de nouvelles sanctions visant la Syrie, le chef de la diplomatie européenne a déclaré que ces pays avaient pris une position de confrontation à l'égard de l'Union européenne. Réagissant aux propos du chef de la diplomatie européenne, le vice-président du Conseil de la Fédération russe, Konstantin Kosachov, a écrit sur Facebook que c'était bien l'Union européenne elle-même qui avait opté pour la confrontation, et ce depuis déjà quelques années. Ce n'est pas Moscou qui a fixé le cap de la confrontation, M. Borrell. C'était justement votre choix, a-t-il écrit en évoquant des démarches des fonctionnaires et députés européens qui ont ces dernières années acculé les relations avec la Russie dans une impasse et qui ont finalement réussi, a-t-il précisé. Moscou vit et continuera de vivre en pleine conformité avec les standards de la civilisation, a-t-il poursuivi. La Chine et l'Algérie ont établi un modèle de coopération internationale. Les relations bilatérales entre la Chine et l'Algérie dans différents secteurs de l'économie, au domaine politique, en passant par la lutte contre l'épidémie de COVID-19, ont été examinées par l'ambassadeur chinois à Alger dans une tribune publiée dans le China Daily. Depuis que l'Algérie est devenue en 2014 le premier pays arabe à établir un partenariat stratégique et globale avec la Chine, les rapports bilatéraux ont reçu une impulsion particulière et se développent sur une base politique solide pour donner des résultats fructueux, affirme l'ambassadeur chinois en Algérie. La Chine est le plus grand importateur en Algérie et son principal partenaire commercial depuis des années, indique-t-il dans un rapport. Niger, les attaques de dimanche ont fait au moins 137 morts selon le gouvernement. Plusieurs villages et campements de la région de Taoua dans l'ouest du Niger près du Mali ont été la cible de multiples attaques dimanche. Le bilan s'élève à au moins 130 morts selon le gouvernement. Les attaques menées dimanche 21 mars par des hommes armés contre des villages de la région de Taoua au Niger, non loin du Mali, ont entraîné la mort de 137 personnes, a annoncé mardi le gouvernement nigérien. En prenant dorénavant systématiquement les populations civiles possibles, ces bandits armés franchissent une étape de plus dans l'horreur et la barbarie, a dénoncé le porte-parole du gouvernement Zakaria Abdourahman dans un communiqué lu à la télévision publique. L'intensification de ces attaques constitue le plus grand défi auquel va être confronté le nouveau chef de l'État, Mohamed Bazoum, successeur de Mahamudu Issoufou, dont la victoire à la présidentielle a été confirmée dimanche par la Cour constitutionnelle du Niger. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, salue à Dakar le président sénégalais Macky Sall pour le soutien sans faille du Sénégal aux efforts de maintien de la paix dans le monde. J'ai particulièrement remercié Monsieur le président de la République pour le soutien sans faille du Sénégal aux efforts de paix des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, a indiqué Monsieur Lacroix à la télévision publique sénégalaise à sa sortie d'audience avec M. Sall. Pour le responsable onusien, le Sénégal est un partenaire de longue date, un partenaire de confiance des opérations de paix des Nations Unies. Et il a salué le professionnalisme des policiers et militaires sénégalais engagés dans les missions des Nations Unies et a magnifié le partenariat entre l'ONU et le Sénégal dans des opérations de maintien de la paix à travers le monde. J'ai voulu rendre hommage devant le président de la République aux soldats sénégalais qui ont perdu la vie en servant la cause de la paix, a-t-il affirmé. Eh bien, chers amis auditeurs, c'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. On va vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La résistance yéménite poursuit ses opérations contre l'agresseur, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Les combattants yéménites poursuivent leurs opérations sur l'axe est et sud-est de Sirba. Marib sera prochainement libérée. Les prochaines destinations sont déjà fixées. Chabwa et Hazramout. Les combattants yéménites poursuivent leurs opérations sur l'axe est et sud-est de Sirba, dans la banlieue ouest et sud-ouest du barrage de Marib. Les combats sont pourtant moins intense par rapport à la semaine précédente, selon une source sur le terrain qui rapporte que les forces yéménites donnent désormais la priorité à la stabilisation de leur position dans les régions récemment libérées. De l'autre côté, la coalition d'agression saoudienne a multiplié ses raids aériens et expédié des renforts à la zone de combat pour reprendre les régions libérées par Ansar Allah, une tactique qui n'a d'ailleurs rien apporté de bénéfique. La source précise que les positions des combattants yéménites ont été stabilisées et renforcées dans les régions d'Al-Hamajara et Al-Zour depuis l'axe de Sirwa. Les forces d'Ansar Allah ne sont qu'à environ 10 km de la ville de Marib. Si le combattant arrive à nettoyer les monts de Dal Balagh et de Talat al-Hambra sur cet axe, ils atteindront l'entrée occidentale de Marib. En effet, en raison des raids aériens successifs et des chemins difficiles à traverser, les forces yéménites ont décidé de se focaliser plutôt sur l'axe sud-est de Sirva pour pouvoir atteindre Marib. La source ajoute d'ailleurs que les yéménites avaient conforté leur position sur l'axe sud-est de Sirva et réussi à prendre le contrôle de plusieurs zones. S'ils peuvent maintenir leur position dans ces régions libérées, ils avanceront ensuite vers d'autres autres destinations telles que les régions stratégiques d'Al-Ad, à Raouzar, le mont Al-Balagh et d'Al-Ad, à Aoussat et le mont Al-Sawad. Avec toutes ces avancées, les combattants yéménites ont réduit leur distance de 15 km à 10 km de l'entrée sud-ouest de Marib. Ils envisagent de nettoyer Al-Raouza et les monts méridionaux pour atteindre finalement la route à Arib Jabal Mourat et occuper la communication entre les éléments de la coalition d'agression se trouvant à Marib, en fait, avec les régions du sud. Cela signifiera la chute des mercenaires de Riyad sur cet axe à l'approche du 6e anniversaire de la guerre déclenchée par l'Arabie Saoudite contre le Yémen. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari, a fait part de plus de 12 000 opérations que les combattants yéménites ont menées contre le régime saoudien et ses mercenaires opérant sur le territoire yéménite.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Lors d'une conférence de presse à l'Élysée avec le chef du régime israélien, le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'Iran devrait faire les gestes attendus de sa part et se comporter de manière responsable pour éviter une aggravation de la situation au sujet de son programme nucléaire. La réaction de l'Iran ne s'est pas fait attendre. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a souligné que c'était justement à cause du comportement responsable de l'Iran que le PGAC, Plan Global d'Action Conjoint, était vivant. Selon M. Zarif, au lieu de se coordonner avec l'ennemi numéro un de l'accord nucléaire, la Troïka européenne et les États-Unis devraient agir de manière responsable et respecter la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, la politique iranienne de Macron ne fait pas consensus en France. Récemment, un collectif d'une cinquantaine d'hommes d'affaires, d'élus, de journalistes ont adressé une lettre ouverte au président de la République, l'enjoignant de jouer, je cite, un rôle historique dans la normalisation avec l'Iran. Ils ont également souhaité que la France, en effet, ait une politique plus indépendante et plus neutre au regard des dossiers régionaux et plus particulièrement la question du nucléaire iranien. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les récentes déclarations du président français, sa politique envers l'accord nucléaire et, dans un cadre plus général, envers les questions moyen-orientales. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
En réponse aux remarques du président français Emmanuel Macron, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a déclaré que l'accord nucléaire n'était en vie qu'à cause du comportement responsable de l'Iran. Le chef de la diplomatie iranienne a répondu aux propos tenus par le président français Emmanuel Macron à propos de l'Iran. Lors d'une réunion avec le chef du régime sioniste à l'Élysée, jeudi, Emmanuel Macron a prétendu que l'Iran devrait cesser de violer le PGAS et agir de manière responsable. La Troïka européenne exhorte l'Iran à agir de manière responsable pour faire plaisir à un régime terroriste avec des armes nucléaires illégales, a écrit Zarif sur Twitter. Au lieu de se coordonner avec l'ennemi numéro 1 du PGAC, la Troïka européenne et les États-Unis devraient agir de manière responsable et respecter la résolution 2231 du Conseil de sécurité. Le chef du régime sioniste, Reuven Rivlin, a rencontré jeudi Macron à l'Élysée. Rivlin avait entamé un voyage en Europe quelques jours plus tôt pour discuter de ce qu'il appelait la menace croissante du programme nucléaire iranien en Allemagne, en France et en Autriche. Macron a déclaré lors d'une conférence de presse à l'Élysée en présence de Rivlin que la France souhaitait relancer les négociations nucléaires. Il a également appelé à une inspection des installations nucléaires iraniennes et à une enquête sur le programme de missiles iranien. Macron a fait ses remarques à l'Élysée en présence du chef du régime sioniste qui tente de maintenir la pression sur l'Iran pour son programme nucléaire. Le voyage de 3 jours du chef du régime israélien en Europe intervient alors que l'entité israélienne cherche à persuader le président américain Joe Biden de poursuivre une politique de pression maximale qui a commencé après le retrait de Donald Trump de l'accord nucléaire. La République islamique d'Iran a toujours rejeté les affirmations non fondées du régime sioniste et des pays occidentaux, y compris les États-Unis, selon lesquelles elle chercherait à se doter de l'arme nucléaire. Ces allégations interviennent alors que le régime sioniste est le seul détenteur d'armes nucléaires en Asie de l'Ouest et, avec le soutien des pays occidentaux, a refusé d'adhérer aux traités internationaux pour surveiller son programme d'armes nucléaires.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre attention. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles Xavier Dupré, analyste politique et économiste, et depuis Alsace, Maître André Chamy, juriste international et sociologue. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous pour votre accueil et bonjour à votre invité. Et surtout, bonjour à tout le monde en raison de l'occasion de la fête de Nowruz qui était pour hier.
Merci infiniment, Maître Chamy. Maître Chamy, alors, les récentes déclarations, en effet, du président français au sujet du programme nucléaire iranien, ne sont pas d'ailleurs choses nouvelles, mais méritent réflexion, d'autant plus que ces déclarations ont été tenues à l'occasion d'une rencontre avec le chef du régime israélien. Alors, de nouveau, Macron a appelé l'Iran à agir de manière responsable, à cesser de violer l'accord nucléaire, à éviter une aggravation de la situation au sujet de son programme nucléaire. Alors, la première question, justement, sur cet esprit, sur ce sens de responsabilité, et justement, le chef de la diplomatie iranienne a rétorqué, bien entendu, en soulignant que c'était à cause du comportement responsable de l'Iran que le PGAC était toujours en vie. Mais la question qui se pose, qui est justement le responsable de multiples violations, des violations consécutives de l'accord nucléaire, l'Iran ou bien les États-Unis et la Troïka européenne?
Si vous me posez cette question, c'est que vous connaissez la réponse, parce qu'en réalité, il faut partir au moment où Trump a été élu. À partir de cette date-là, bien entendu, tout le monde a considéré que l'accord était mort. En tout cas, il a été déchiré par ce fameux président et les Occidentaux n'ont fait que suivre. Parce qu'en réalité, moi je le dis comme je le pense, les Occidentaux ont perdu toute âme, ils ont perdu toute identité et leur perspective, leur politique, leur stratégie est depuis hypothéquée à la politique américaine. C'est-à-dire, si les Américains disent que c'est blanc, eux, ils seront obligés de dire que c'est blanc. Et si les Américains disent que c'est noir, à ce moment-là, ça devient noir. Et c'est ça qui, je dirais, pathétique aujourd'hui dans la politique étrangère de l'ensemble des pays occidentaux, sans pratiquement, sans distinction. même si parfois vous avez des déclarations ici ou là de tel responsable ou de tel élu, mais je parle au niveau de la politique générale de ces pays-là, il n'y a pas de changement parce qu'ils sont soumis à cette espèce de diktat du côté des Américains. Une fois qu'on a compris ça, évidemment, vous avez donc les années Trump, les quatre années Trump, qui ont été les années de la paralysie de l'accord. Nous connaissons la position de Biden avant l'arrivée de Trump, puisque lui, il fait partie de ceux qui ont été considérés comme des architectes de l'accord, puisqu'il était le vice-président d'Obama qui a légué en quelque sorte cet accord. Mais ce n'est pas pour autant que l'on voit un empressement du côté de Biden, lequel maintenant veut pratiquement aller dans le même sens que Trump, mais de manière beaucoup plus soft, puisqu'il rajoute à l'accord de nouveaux éléments, c'est-à-dire renégocier les armes balistiques, renégocier la politique, renégocier le rôle de l'Iran dans la région, c'est-à-dire s'élier l'existence de l'accord et maintenir cette espèce de paralysie, pour ne pas dire l'anéantissement de l'accord. Un accord a été signé, et deux choses d'une, soit les Occidentaux reviennent dans l'accord et à ce moment-là, chacune des parties s'engage à aller jusqu'au bout dans ses engagements et dans ses obligations, soit l'accord est paralysé, à ce moment-là, bien entendu, chacune reprend sa liberté. Mais on ne peut pas dire que l'accord existe et en même temps ne pas le respecter. Et nous sommes actuellement dans cette situation-là. Les Occidentaux ne respectent pas et ensuite dire, ils disent que l'Iran doit revenir à de meilleures postures, etc. Quelle est la meilleure posture? L'Iran a respecté l'accord même pendant les quatre années Trump, c'est-à-dire n'a pas voulu se retirer alors qu'il en avait le droit. Aujourd'hui, l'Iran se maintient dans l'accord. Les Occidentaux doivent donc respecter leurs obligations et leurs engagements. Il appartient donc aux Occidentaux d'abord de déclencher le processus économique, le processus financier, le processus d'échange avec l'Iran. Et à partir de là, bien entendu, l'Iran revient sur le seuil sur lequel il était engagé, sur le contrôle de ses sites et sur la production des matières fissiles, des matières atomiques. À partir de là, si l'Iran, dans ce cadre-là et dans le cadre des engagements pris dans l'accord, ne respectait pas ses engagements, il appartient aux Occidentaux de le dénoncer. Mais même l'AEA ne dit pas que l'Iran ne respectait pas ses engagements. Par conséquent, aujourd'hui, l'Iran est dans ces droits-là, mais les Occidentaux ne sont pas dans leurs engagements, ce qui constitue, à mon sens, non seulement un grave manquement, mais aussi une négation de ce que est une démocratie, parce qu'une démocratie, quand elle s'engage dans une signature internationale, engage également sa souveraineté, engage sa volonté de participer à l'exécution et l'application de cet accord. Sinon, ce n'est plus une démocratie, c'est plus une sorte d'acteur qui peut pratiquer l'anarchie à tout va.
Merci pour ces éclairages, Maître Chamier. Restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Bruxelles pour rejoindre Xavier Dupré, analyste politique et économiste. Monsieur Dupré, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite également mes meilleurs voeux, avec 24 heures de retard, excusez-moi, pour Norouz.
Voilà. Merci, c'est très gentil de votre part. Monsieur Dupré, Maître Chamier l'a rappelé, en dépit en effet du retrait unilatéral et illégal des États-Unis de l'accord nucléaire, malgré l'inaction, la léthargie de la Troïka européenne, l'Iran a continué de respecter en effet ses obligations dans le cadre du plan global d'action conjoint. S'il y a eu une réduction des engagements, c'est bien entendu en raison des violations consécutives de cet accord par les autres signataires. Alors, pourquoi aujourd'hui, au lieu de respecter leurs engagements, au lieu de respecter la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, les pays européens et à leur tête le président français Emmanuel Macron demandent à l'Iran d'agir de manière responsable?
Je crois qu'en fait, on en est arrivé ici à un moment particulièrement orwellien. Hein, tout le monde se rappelle de l'œuvre de George Orwell, 1984, dans lequel George Orwell faisait dire à l'un de ses protagonistes, dans le cadre d'une société totalement pilotée par une propagande, que la paix était la guerre et que, en fait, finalement, tout pouvait tout vouloir dire à n'importe quel moment. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un de ces moments. J'abonde absolument dans le sens de ce qu'a dit Maître Chami. Nous autres Européens, enfin plutôt les dirigeants actuels de nos États européens, sont pieds et poings liés à Washington, et Washington renacle, en dépit de promesses électorales, à appliquer intégralement les dispositions des accords de Vienne. Et c'est là où je vous disais qu'on vit un moment orwellien. Lorsqu'Emmanuel Macron, j'ai la presse sous les yeux, j'ai le journal sous les yeux, reproche à l'Iran de ne pas tenir ses engagements, c'est en réalité parce que lui, à la suite de pressions vraisemblablement, en tout cas d'un accord de vue objectif avec Washington, demande à ce que dans les accords de 2015 soient ajoutés par voie de négociation, mais surtout de pression maximale, une série d'objets qui n'avaient jamais été inclus dans les accords, spécialement l'activité, je cite, hein, spécialement, je cite, l'activité balistique de l'Iran dans la région. Fin de citation. Donc c'est très clair. Emmanuel Macron reproche à l'Iran de ne pas respecter les accords parce qu'en réalité, il désire en trahir à la fois l'esprit et la lettre. De ce fait, je crois qu'il est important de faire valoir une série de faits objectifs. Lorsque des accords ont été conclus, des missions de l'Agence internationale de l'énergie atomique, mission qui était parfois totalement surprise. C'était vraiment des missions surprises. Ont toutes conclu, et l'on retrouve la synthèse de ces rapports sur le site des Nations Unies, elles ont conclu unanimement que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires, que l'Iran développait un programme civil. C'était du nucléaire civil, cela n'avait rien à voir avec de l'armement nucléaire, et que l'Iran respectait parfaitement les dispositions des accords de 2015. Deux, et aujourd'hui, Emmanuel Macron serait bien en peine de reprocher à l'Iran de ne pas avoir d'accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, puisqu'il existe un accord, il y a un accord. L'Iran n'a donc pas claqué la porte des visites, des inspections de l'Agence internationale de la UIEA.
Merci, Monsieur Dupré. Je vous remercie infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. Maître Chami, si vous voulez bien, on va revenir à cette question essentielle, fondamentale de souveraineté, d'indépendance et de neutralité dans la politique d'Emmanuel Macron envers les questions du Moyen-Orient et plus particulièrement de la question du nucléaire iranien. Et ce qui a été relevé justement tout récemment dans cette lettre ouverte adressée à Macron par une cinquantaine d'hommes d'affaires, d'élus, de chercheurs et de journalistes. Alors, selon justement dans cette lettre, on souligne que la politique d'Emmanuel Macron n'est ni indépendante ni neutre et que Macron répond plutôt aux intérêts, en effet, de ses acheteurs, entre autres, c'est-à-dire que Macron est soumis plutôt à cette politique des contrats d'armement avec les pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Alors, jusqu'où Macron pourrait justement agir dans ce sens au prix de sacrifier la souveraineté et l'indépendance de la France, Maître Chami? Très rapidement, s'il vous plaît.
Alors, très rapidement, je vais vous dire, l'indépendance de la France par rapport à la question de la souveraineté et notamment par rapport à ce qu'on appelle les questions stratégiques a totalement disparu. Ça, il n'y a pas de doute, puisque aujourd'hui, aucune décision n'est prise sans l'aval des Américains d'une manière ou d'une autre. L'indépendance militaire de la France a quasiment disparu à partir du moment y a une intégration totale dans le commandement de l'OTAN, c'est-à-dire rien ne se fait sans l'OTAN, c'est-à-dire ipso facto sans les États-Unis. Aucune opération militaire aujourd'hui ne peut se faire par la France sans l'appui des Américains. Ce qui s'est passé en Libye, les Français ont cru pouvoir engager quelque chose, et finalement ils ont tout de suite appuyé les Américains pour les aider et les soutenir, notamment par la voie aérienne. Par conséquent, aujourd'hui, nous sommes devant une situation dramatique pour la France, parce que la France avait vocation d'avoir un rôle international, et plus particulièrement au Moyen-Orient, ce qui était rappelé par l'ensemble, je dirais, des acteurs politiques dans la région, et surtout en France, par ceux qui croient en l'histoire de la France et en sa capacité d'agir avec ses relations, avec ses amitiés, avec son histoire. Évidemment, la France avait un rôle qu'on appelle le rôle gaulliste de la France. Ce rôle a totalement disparu, et ce, depuis belle lurette maintenant. À partir du moment où vous abandonnez votre souveraineté, vous pouvez tout simplement dire adieu à toutes vos relations, parce que plus personne ne fait confiance à ce qui peut se dire ou ce qui peut se décider par la France. Regardez voir l'intervention de la France au Liban et rester lettre morte, parce que justement, il y a les Américains qui sont derrière et les autres alliés des Américains. Regardez voir ce qui se passe au Yémen, c'est pareil. Pendant que les Américains essayent de réduire la tension en disant « on vend plus d'armes aux Saoudiens », les Français continuent d'en livrer, bon gré, mal gré. C'est ça que je trouve dramatique. C'est-à-dire, comment voulez-vous avoir des amitiés sans être sérieux dans vos engagements? Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'hiver irakien, nous sommes dans le même sens, puisque la France aurait dû, bon gré, mal gré, avancer dans le sens de l'exécution et de l'application de l'accord, parce que si elle est signataire, au même titre que les pays européens, elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des sanctions en retour des Américains. C'est-à-dire un pays qui a peur d'un autre pays, c'est déjà un abandon de souveraineté, un abandon de capacité d'action, un abandon de, je dirais même de respecter ses propres engagements et sa signature. Et c'est aujourd'hui ça la situation de la France et de l'ensemble de l'Occident. Et moi, je qualifie ça tout simplement de situation pathétique, parce que des pays importants tels que la France, l'Allemagne et l'Angleterre auraient pu avoir quelque chose qui montre leur, je dirais, leur véritable indépendance, leur véritable souveraineté, mais ils l'ont abandonné. Eh bien, tant pis, maintenant on sait qu'il y a un seul interlocuteur, c'est les Américains. Par conséquent, il faut maintenant s'attendre à une discussion qui doit venir tôt ou tard entre les Américains et les Iraniens. Et évidemment, ça aboutira, à mon sens, à un retour à l'accord. Et ça, c'est inévitable. Ils essayent d'obtenir un nouveau prix qu'ils n'ont pas pu obtenir au cours des premières négociations, et ça ne marchera pas parce que
merci,
c'est mal connaître et l'Iran et le peuple iranien et les dirigeants iraniens.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Monsieur Dupré. Monsieur Dupré, il nous reste 3 minutes, s'il vous plaît. Pourquoi la France d'Emmanuel Macron joue en effet le jeu des pays, des puissances qui ont intérêt à ce que les acteurs ne rentrent pas dans l'accord sur le nucléaire iranien?
Mais en fait, je vais aller très très vite, hein. Nous n'avons que 3 minutes. La France est rentrée sous Nicolas Sarkozy dans le commandement intégré de l'OTAN, ce qui veut dire que la France ne dispose plus aujourd'hui d'aucune latitude lui permettant de formuler des initiatives stratégiques autonomes, et dès lors, dans le cas d'espèce de l'accord de 2015 avec l'Iran, l'accord sur le nucléaire iranien, il doit suivre la voie de son maître. La France n'est plus aujourd'hui un État qui dispose de sa totale souveraineté, ou à tout le moins d'une autonomie importante en matière de définition de sa politique au Proche et Moyen-Orient. Donc, oui, nous sommes. En réalité, l'Europe occidentale, depuis que la France a regagné le commandement intégré de l'OTAN, nous sommes en situation de protectorat ou de semi-protectorat militaire américain. Et nous ne pourrons jouer un rôle d'intermédiaire. Enfin, les dirigeants actuels des États européens ne pourront jouer un rôle d'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis qu'à la seule et unique condition d'être mandaté par les États-Unis. Puisqu'il n'y a plus aujourd'hui cette grande puissance française, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui dispose de l'autonomie stratégique lui permettant
de se distinguer des vues de Washington. Les faits sont très clairs.
Merci infiniment, Monsieur Xavier Dupré, économiste et analyste politique depuis Bruxelles. Je remercie également Maître André Chamy, juriste international et sociologue, d'avoir apporté des éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Ici le Moyen-Orient.
Ici la région de l'Asie de l'Ouest. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. À l'occasion du nouvel an iranien, le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a adressé ses vœux à la nation iranienne qui a achevé une année 1399 du calendrier de l'égire solaire, pleine d'épreuves et qui entre dans un nouveau siècle plein de promesses. L'année 1399 a été également l'année de la démonstration des capacités de la nation iranienne, y compris dans sa confrontation à cette grande épreuve, c'est-à-dire le coronavirus. Pour être honnête, notre cher peuple, notre personnel médical, les chercheurs et les scientifiques, les masses populaires et les groupes altruistes bénévoles ont fait preuve de grandes capacités pour gérer cet incident amer malgré les pressions maximales de l'ennemi. Les sanctions et le blocage des possibilités étrangères, a souligné le guide suprême de la révolution islamique, et de poursuivre. Notre nation, nos scientifiques, nos médecins, nos infirmiers, nos soignants, nos laborantins et nos radiologues impliqués dans les services sanitaires ont vraiment réussi à laisser derrière eux une grande expérience et à montrer leur grande aptitude. La nation iranienne, a souligné le guide suprême de la révolution islamique, a également montré sa capacité à faire face aux pressions maximales de l'ennemi. Nos ennemis, avec à leur tête les États-Unis, voulaient mettre la nation iranienne à genoux par le biais de leurs pressions maximales. Aujourd'hui, eux et leurs amis européens disent explicitement que la politique de pression maximale a échoué. Nous savions qu'elle échouerait et nous étions déterminés à vaincre l'ennemi dans ce domaine. Nous savions que la nation iranienne resterait ferme et ils reconnaissent eux-mêmes aujourd'hui que cette politique de pression maximale a échoué, à marteler l'honorable Ayatollah Khamenei, guide suprême de la révolution islamique. Et le premier jour du nouvel an 1400 du calendrier persan, qui a été nommé l'année de production, soutien et élimination des obstacles par le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei a prononcé de son discours annuel retransmis en direct dans l'après-midi du dimanche 21 mars 2021. Dans son discours, l'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré que l'Arabie saoudite n'avait pas encore été en mesure de forcer le peuple du Yémen à se rendre après 6 ans, soulignant que les États-Unis avaient piégé les Saoudiens dans le bourbier de la guerre au Yémen. La politique de pression maximale des États-Unis a échoué. L'imbécile précédent qui a été expulsé de manière honteuse à la fois pour lui-même et pour les États-Unis. Grâce à la faveur et magnificence de Dieu, de la
la République islamique se tient de toujours ferme et puissante, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Désormais aussi, si la nouvelle administration américaine cherche à traiter avec l'Iran en continuant la pression maximale, elle échouera elle aussi et sera expulsée et disparue, tandis que l'Iran islamique restera fort avec une puissance et une dignité croissante, a souligné l'honorable Ayatollah Khamenei. La politique iranienne concernant le plan global d'action conjoint a été clairement énoncée. Elle ne sera pas transgressée. Les États-Unis doivent lever toutes les sanctions. Après avoir vérifié que les sanctions ont bien été levées, nous reviendrons sur nos engagements pris dans le cadre du plan global d'action conjoint, a précisé de l'honorable Ayatollah Khamenei. J'ai entendu certains Américains de dire que la situation actuelle est différente de celle de la signature du plan global d'action conjoint et que certaines clauses doivent y être modifiées. Exact. Pendant ce temps, une administration est entrée en fonction aux États-Unis qui a déshonoré et humilié ce pays, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Concernant le plan global d'action conjoint, l'Iran n'est point pressé. Nous sommes très patients. Nous faisons notre travail. S'ils mettent en œuvre la politique annoncée par l'Iran, nous reviendrons à nos engagements. S'ils ne le font pas, les choses continueront comme elles se déroulent aujourd'hui, a conclu l'honorable Ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique. Au Yémen, les combattants yéménites poursuivent leurs opérations sur l'axe est et sud-est de Sirwar. Marib sera prochainement libéré. Les prochaines destinations sont déjà fixées, de Shabwa et de Hazramout. Les combattants yéménites poursuivent leurs opérations sur l'axe est et sud-est de Sirwar, dans la banlieue ouest et sud-ouest du barrage de Marib. Les combats sont pourtant moins intenses par rapport à la semaine précédente, selon une source sur le terrain qui rapporte que les forces armées yéménites donnent désormais la priorité à la stabilisation de leur position dans les régions récemment libérées. De l'autre côté, la coalition saoudienne a multiplié ses raids aériens et expédié des renforts à la zone de combat pour reprendre les régions libérées par Ansar Allah. Une tactique qui n'a d'ailleurs rien apporté de bénéfique. La source précise que les positions des combattants yéménites ont été stabilisées et renforcées dans les régions d'Al-Hamajara et Al-Zour depuis l'axe est de Sirwar. Les forces d'Ansar Allah ne sont qu'à environ 10 km de la ville de Marib. Si des combattants arrivent à nettoyer les monts d'Al-Balak et de Talatal Amrad sur cet axe, ils atteindront l'entrée occidentale de Marib. En effet, en raison des raids aériens successifs et des chemins difficiles à traverser, les forces yéménites ont décidé de se focaliser plutôt sur l'axe sud est de Sirwar pour pouvoir atteindre Marib. Avec toutes ces avancées, les combattants yéménites ont réduit leur distance de 15 km à 10 km de l'entrée sud-ouest de Marib. Ils envisagent de nettoyer Al-Rawza et le mont Méridignon pour atteindre finalement la route Arib-Jabal Morad et occuper la communication entre les éléments de la coalition d'agression se trouvant à Marib avec les régions du sud. Cela signifierait la chute des mercenaires de Riyad sur cet axe. En Syrie, des centaines d'habitants des villages et des villes du nord du pays ont participé à des marches de protestation à l'occasion de la troisième commémoration de l'opération militaire turque Ramon d'Olivier qui a conduit à l'occupation de la ville d'Afrin au nord d'Alep par la Turquie et les milices syriennes qui lui sont affiliées. Les manifestants ont dénoncé le silence international sur les violations turques de leurs terres. Ils ont brandi les portraits des personnes qui ont été tuées par les forces turques et leurs supplétifs ainsi que des banderoles indiquant comme slogan « Arrêtez l'occupation de nos terres ». Dans la ville de Qamishli a eu lieu en même temps un forum pour la tribu des Thaï qui a réclamé l'expulsion des forces d'occupation américaines et turques et de leurs spires collaborateurs du sol syrien tout en réitérant son soutien aux élections présidentielles. Eh bien, chers amis, c'est touché à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.